Bonjour Christian Debossieu.
Bonjour.
Merci d'être là, professeur à Paris 1, Panthéon-Sorbonne et vice-président du Cercle des économistes. On dit un mot des rencontres d'Aix dans un instant. Benjamin Coria, bonjour.
Bonjour.
Professeur de Sciences Éco à Paris 13, membre du comité d'animation des économistes atterrés. Vous avez publié Le bien commun, le climat et le marché, réponse à Jean Tirole, aux éditions Les liens qui libèrent. Robert Yvaton.
Bonjour.
Bonjour.
Je vous attends sur la loi Casbarian. Directeur général de Stonal, fondateur de Real Estate et membre du conseil scientifique de la Fondapol, auteur de Sourillons, nous sommes filmés aux éditions Alpha. Jean-Pierre Farandou s'en va, Benjamin Coria, enfin s'en va. En fait, il fait une intérim. Il aurait dû quitter son poste à la fin du mois de mai. Il couvre les Jeux Olympiques, mais on a compris qu'il ne sera pas reconduit. Il va falloir lui trouver un successeur, sachant que les entreprises publiques ont des rémunérations qui ont été capées par François Hollande à 470 000 euros, ce qui fait que trouver des volontaires n'est pas toujours facile, on l'a vécu chez EDF. Comment vous regardez le départ de M. Farandou, qui s'est présenté devant les sénateurs en défendant bec et ongle l'accord qu'il a signé avec tous les syndicats, ce qui est rare à la SNCF le 22 avril? Ça vous...
Non, mais si vous voulez, moi j'ai deux remarques. Une première remarque, c'est sur la forme, et puis surtout une remarque sur le fond.
Continuez, je mets votre micro comme il faut, parce qu'il n'est pas comme
non,
il faut.
Non, je vous en prie. Voilà. Merci. Allez. Non, je dis, j'ai deux remarques. Une sur la forme, très rapide, et une sur le fond. Sur la forme, je trouve ça vraiment pas de très bonne augure et de très bonne politique que un ministre intervienne aussi fortement, si je peux dire, hein, parce qu'en fait,
pensez à Bruno Le Maire.
Oui, bien sûr, il le démissionne pour la gestion d'une entreprise publique.
Ne le renouvelle pas.
Oui, oui, mais enfin,
bon, le mandat est arrivé.
Nous savons comme joliment ces choses-là sont dites.
Oui, bien. D'accord. Dans les faits, il n'est pas renouvelé.
Oui,
il est plus atteint par la limite d'âge.
Oui,
vrai,
oui, hein. Mais tout le monde interprète ça comme une sanction de
oui,
fait.
C'est bon, vécu puisque, comme une sanction.
Bon, voilà. Je trouve ça d'autant plus regrettable que le bilan de... Après, on va parler de l'accord, je vais dire un mot sur l'accord. Ouais. Le bilan de M. Farandou est plutôt très bon. Hein, c'est-à-dire que, comme vous le savez vous-même, et comme vous l'avez expliqué, il a récupéré une entreprise en déficit, il l'a mise au vert, il a traversé une période extrêmement difficile, qui est celle de la réforme des retraites. Il a quand même conduit sa barque, alors dans des conditions très difficiles, parce que la SNCF n'est pas n'importe quelle entreprise. Donc voilà, je trouve qu'il a plutôt un bon bilan. Alors ça, c'est sur la forme. Sur le fond, il est clair que l'accord qui a été signé est plutôt bon pour les salariés. Je crois que c'est pas très discutable.
C'est un régime de retraite
oui,
très spécial.
Oui, oui, mais en même temps, pour faire passer la pilule des retraites dont personne ne voulait, hein, je veux dire, à la fin de la signature.
Oui, mais vous êtes économiste, Benjamin Coria. Vous savez bien qu'il y a un moment le déséquilibre actif-inactif.
Non, mais il y avait d'autres. On va pas refaire le débat.
Non,
maintenant.
On va pas refaire le débat.
Moi, j'étais du côté de 70% des Français qui trouvaient que cette réforme était injuste, mal faite, etc. Bien. Donc, si je suis largement majoritaire là-dessus, ça
oui,
ah,
mais
pas souvent.
Ah, mais vous serez majoritaire.
Bon, voilà.
Mais les paramètres de réforme d'une retraite, vous les connaissez comme moi.
Oui, je les connais comme
vous,
non plus,
et
de très nombreux experts avaient une toute autre idée de la réforme à faire. Bon,
revenons sur l'accord.
On ne va pas revenir là-dessus. Bon, donc, vous m'avez interrompu, si je peux
oui,
dire.
Oui, je le
mais
reconnais.
Non, mais je comprends très bien, ce n'est pas le souci. Au moment où j'étais en train de dire que pour nous vendre cette réforme des retraites, on nous avait dit les questions de pénibilité, il n'y a pas de souci, elles seront prises en compte. Bien, dans des dispositions ultérieures. Si vous regardez cet accord, il touche pour l'essentiel les situations de travail pénible. C'est celle-là, ah ben c'est le cœur. C'est le cœur.
Non, mais je veux bien. Plus avantagés sont les contrôleurs, les chefs de bord.
Oui,
la
non, mais c'est aussi le travail de nuit, le travail intercalé,
oui.
Etc. Donc, d'une certaine manière, on peut considérer que je suis pas en train de. Cet accord est bon pour les salariés. Je dis pas le contraire.
Ils ont tous signé.
Bien
même
sûr.
Sudra,
mais,
il y a la CGT.
Mais ça, je mets pas en question. Mais d'une certaine manière, il n'a fait que rentrer dans la brèche, si je peux dire, du travail pénible pour lequel on nous avait fait toutes les promesses du monde sur le thème « Ne vous inquiétez pas, d'ailleurs cette réforme est juste, elle va faire progresser, etc. » Et là où on obtient quelques résultats, on dit « Ah ben non, pas touche, ça remet en cause le cœur de la réforme des retraites. » Donc si vous voulez, on ranime un débat extrêmement douloureux, en faisant payer quelqu'un qui, justement, utilise l'une des dispositions annoncées pour faire passer cette réforme. Donc voilà, sur le fond, je trouve que c'est une très mauvaise nouvelle. Ça veut dire que on nous a, non seulement nous a imposé une réforme qu'on voulait pas, mais en plus on nous a menti pour imposer cette réforme, à savoir que les questions de pénibilité seraient prises en compte, et lorsqu'elles le sont d'une manière qui est effectivement plutôt favorable pour les salariés, on dit, ah ben non, surtout pas, et donc on vire la personne. Donc voilà, je trouve que sur le fond, c'est une très mauvaise nouvelle, et voilà, c'est un peu embêtant.
Je donne la parole à Christian Debossu. Je précise que là où vous avez totalement raison, Benjamin Coria, c'est que l'accord qui est intervenu le 22 avril était une renégociation demandée
bien
par
sûr,
l'exécutif.
Bien sûr, en plus.
En février 2023, d'un précédent accord qui remonte à il y a plus de 15 ans.
Bien sûr.
Quand Bruno Le Maire nous dit « je n'étais pas au courant », c'est un peu fort de café.
Mais bien sûr.
Christian Debossu.
Moi, je pense qu'il y a deux, je ne sais pas s'il faut dire erreurs, ou qui se cumulent dans cette affaire. La première, du côté de l'entreprise, c'est de donner le sentiment de s'asseoir sur la réforme des retraites quelques mois après une adoption qui a été très compliquée. Bon, et la deuxième erreur, elle vient de la gouvernance étatique, et là je rejoins ce qu'a dit Benjamin sur le deuxième point, pas sur le premier. Sur le deuxième point, je pense quand même qu'il y aurait eu moyen de gérer cette affaire autrement que par une convocation illico de M. Farandou à Bercy, que je sache, il y a des représentants de l'État au Conseil de la SNCF, que je sache. Donc, je trouve que du point de vue de la gouvernance de cette entreprise, ça a été extrêmement mal géré, même si aujourd'hui on utilise l'argument de l'âge pour ne pas renouveler
le
mandat de M. Farandou.
Ça se repousse une
Je trouve que c'est, si vous voulez, j'ai dit ma erreur, des grosses maladresses, je suis entre maladresse et erreur, mais qui se cumulent, c'est pas 15 ans, je dis pas ça quelques jours de Roland-Garros, c'est pas 15 ans, mais je veux dire, pour moi, il y a du problème des deux côtés.
Bon. Moi, je voudrais juste un point. On a dit, c'est pour éviter les grèves, les Jeux Olympiques. Monsieur Farandou lui-même a dit, je voudrais que la négociation, en gros, la négociation sociale ne soit pas tout le temps la conséquence d'une grève, mais qu'elle anticipe le long terme de l'entreprise. Donc, je veux dire, il faut lui rendre ce mérite-là aussi. On dit toujours, ah, les Japonais, ils sont formidables, ils font jamais de grève. Mais justement, parce qu'il y a des négociations qui anticipent en permanence.
Alors, oui, mais à 0% d'inflation salariale, le Japon, sur 20 ans,
c'est
pas
exactement ce que j'ai
dit. Si on peut prendre l'exemple de
la
le Japonais. Il a raison, le Japonais est un personnage à part sur la planète.
On peut pas comparer, si on peut.
C'est le seul qui peut travailler toute sa vie sans jamais demander de hausse de salaire, le Japonais.
Il y a trois semaines, on a évoqué cette nouvelle, et j'étais ici même, et je m'en suis ouvertement effaré, quand même, parce que oui, on peut faire de la pénibilité. La question, c'est qui la paye. Là, elle est payée par les impôts des Français. Donc en fait, c'est pas comme si la SNCF était aujourd'hui suffisamment
bénéficiaire. Qui en bénéficie ?
Allez, laissez-le terminer. Laissez-le. 20 milliards de transferts qui passent de l'État, donc de l'impôt, à la SNCF par an, avec une partie de ces transferts qui ne sont pas justifiés par des missions de service public, qui sont liées à la structure déficitaire de la productivité des salariés de la SNCF. Donc non, aujourd'hui.
Non, ça c'est
aujourd'hui,
très vrai. C'est vrai. C'est renseigné par François Eckhall,
on va dire, l'a montré à l'euro près.
Tout le système de réorganisation et de mise en concurrence.
François Eckhall nous a fait la liste des 20 milliards. Il y a effectivement des services que les États et les régions, achètent. Il y a 4 milliards pour combler le déséquilibre des retraites de la SNCF.
Vous voulez une infrastructure dans ce pays ou vous n'en voulez pas ?
Je suis d'accord sur le fait que l'État et les régions payent des infrastructures
dont ils ont besoin. C'est pour 16 milliards et il reste 4 milliards qui sont liés à des dépenses de fonctionnement, pas des dépenses d'investissement. François Eckhall l'a montré à l'euro près exactement. C'est un peu moins de 20 milliards, c'est 19.
Mais c'est pas le VMH,
Laissez Robin terminer. Mais
tout ça pour dire que, grosso modo, cet accord sur la pénibilité, c'est un accord sur la pénibilité qui est fait sur le dos des impôts, donc avec nos impôts, et donc on a le droit de s'en émeuvoir. Et juste un autre point, la situation des entreprises publiques françaises où tout d'un coup quelqu'un qui arrive en fin de mandat, qui arrive avec une limite d'âge, c'est écrit, c'est la règle, et tout d'un coup on s'émeuve en disant qu'on devrait repousser la limite d'âge, qu'on devrait faire automatiquement un deuxième mandat. Mais pourquoi ? Excusez-moi, dans les boîtes privées, tout le temps, quand quelqu'un arrive en limite d'âge, on lui dit c'est fini, et on change, on lui trouve un successeur, on fait des plans de succession.
Ou on repousse la limite d'âge.
Non, et bien ça, c'est des mauvaises pratiques. C'est des mauvaises pratiques. C'est des mauvaises pratiques de gouvernance. Des mauvaises pratiques de gouvernance. Quand on fixe des règles en gouvernance dans une entreprise,
d'accord, si il y a une règle, on la respecte.
D'un certain nombre d'entreprises, je peux vous le dire, quand on fixe des règles, règles, on les tient. On ne change pas les règles sous prétexte.
Robin, si je peux dire un mot là-dessus, Robin. C'est que moi j'aimerais ok pour la règle on l'applique mais on l'applique à tout le monde.
Bien sûr, ah, oui,
d'accord, enfin, c'est ça le problème. Pas de souci.
Non mais c'est pas du contraire. La limite d'âge.
Je sors du cadre de Monsieur Farandou. Je dis juste que quand on fait de la gouvernance d'entreprise, qu'elle soit publique ou privée, quand on fixe des règles, c'est pas pour les contourner systématiquement. Et la règle de la limite d'âge, on l'a contournée pas que sur.
On l'a contournée à plusieurs reprises.
Mais bien sûr.
C'est dommage.
Non mais je suis d'accord avec Robin qui considère que s'il y a une règle, on la respecte. La règle, c'est 68 ans. En l'occurrence, cette limite d'âge avait été imaginé de la repousser, et puis bon, là, le choix politique a fermé le banc. Mais il est totalement vrai, et là, autant j'ai considéré qu'effectivement, bon, il était un peu sacrifié. Enfin, il n'y aurait pas eu... Le fond de ma pensée, c'est qu'il n'y avait pas l'accord du 22 avril, il faisait un autre mandat.
Mais bien entendu, j'en suis sûr.
J'en suis sûr. Après, c'est ce que je disais hier dans la chronique. Après, quand il nous dit que ça coûte 35 millions d'euros par an, je pense que c'est le bas de la fourchette. Et quand il dit que ça coûte pas un sou aux contribuables, là, je suis pas d'accord, parce qu'effectivement, sur les 20 milliards d'argent public annuel, il n'y a pas 20 milliards de subventions, mais il y a entre 3 et 4 milliards pour équilibrer les régimes de retraite.
Aux contribuables ou aux clients?
Alors,
il y a quand même le débat sur l'évolution des tarifs de la
SNCF. Il a dit. Alors, il a expliqué au Sénat que rien ne sera répercuté sur les clients, car ça ferait 29 centimes par billet, ce qui n'aurait aucun sens, dit-il.
Non, mais je rajoute juste un point. Il faudrait, revenir en détail sur comment s'est faite l'ouverture à la concurrence, comment la SNCF a été divisée en plusieurs activités, comment elles sont financées, et on verrait que ces 20 milliards, c'est pas des fautes de gestion du gouvernement de l'entreprise. Bon, ça c'est mon premier point.
On n'a pas parlé de faute de gestion, Benjamin Correa.
Non.
Je dis constamment
un dépassement de budget, etc. Bon, l'autre aspect de la question, et ça je l'ai dit et je le répète, en tout cas c'est quelque chose sur lequel je voudrais insister, qui est que les choix qui ont été faits tarifaire d'un côté, d'investissement dans le TGV d'autre part, etc., n'ont pas été faits par la seule gouvernance de la SNCF. Ça a été fait sur impulsion, voire imposition de l'État. Qu'il se retrouve derrière à payer les pots cassés,
Normal. Ça ne me choque pas.
Il faut arrêter de sortir tout d'un coup des arguments contre Farandou.
Je ne sors pas d'arguments contre Farandou. Si effectivement, si les régions veulent des lignes qui coûtent de l'argent et qui n'en rapportent pas, elles payent. Si l'État veut de l'intercité ou du train de nuit qui ne rapporte pas d'argent qui en coûte, il paye. Et vous prenez les 20 milliards, et on sait parfaitement sur l'ensemble des 20 milliards ce qui correspond à des services que la puissance publique achète à la SNCF. Mais ça va pas jusqu'à 20. Et il y a une partie de cet argent qui est pour aider à l'investissement et une partie qui est pour équilibrer le régime des retraites des cheminots. Vous avez quoi, 230 000 cheminots retraités pour à peu près 160 000 actifs.
C'est ce qu'on appelle la solidarité qui fait qu'un État tient. C'est ça qui fait qu'on n'est pas le Nigeria.
Admettons que ça coûte de l'argent.
Oui,
en changeant de sujet.
Vous pouvez changer de sujet.
vous rappelez que le Cercle des économistes tient ses journées annuelles, ses rencontres, début juillet, 5, 6, 7 juillet.
On y sera.
Aix-en-Provence, vous y serez. Oui. Nous y serons, plusieurs en tout cas, sur un thème, j'allais dire, volontariste, dans un monde fragmenté, dans un monde conflictuel. Notre thème, c'est relier les mondes.
Mais oui.
Relier les mondes. Point. Vers une réconciliation. On n'a pas mis de point d'interrogation, d'ailleurs, derrière réconciliation, parce que nous sommes volontaristes, optimistes dans un contexte qui n'est pas vraiment. Voilà. Et donc, on va rassembler et les gens intéressés par relier les mondes, mais relier les mondes dans tous les sens du terme. Géographiquement, le débat sur Nord-Sud, Sud global, relier les générations, les anciens, les jeunes, etc. Relier les territoires. Voilà, relier les mondes. Le débat capital-travail qu'on va retrouver tout à l'heure, j'imagine, à propos des salaires, etc. Relier les mondes. Dans un contexte où, je répète, l'économie mondiale se fragmente, les conflits sont... Pas besoin d'en parler, vous avez des risques systémiques qui s'accumulent au lieu de se succéder. Voilà, je me permets de faire de la pub pour les rencontres, parce que je ne sais pas si on aura le temps d'en parler
mais
tout à l'heure.
Mais j'avais prévu de vous lancer dessus, et puis ça m'a...
Voilà,
mais vous avez bien fait. j'achète totalement l'idée. C'est marrant, j'ai le sentiment que la SNCF, c'est vraiment un cas à part. Je reviens à ma SNCF. Il y a une phrase de Farandou qui m'a fasciné au Sénat. Bon, il défend l'accord, tout ça. Et il a déclaré, on ne peut pas transformer une entreprise publique de 150 000 cheminots à forte culture maison. J'ai trouvé ça comme un aveu de fatalité. L'entreprise est ingouvernable, en fait.
Non,
ça m'a rappelé...
Elle, non seulement elle n'est pas ingouvernable, mais elle est gouvernée. Mais bien sûr qu'elle est gouvernée.
Mais vous savez...
Quand vous avez à prendre un train, il est à l'heure 9 fois sur 10. Elle est gouvernée, l'entreprise.
Ça m'a rappelé... Ça veut dire... C'est plus la question du rythme de la transition, du changement qui est évoqué par cette phrase, que le principe même de savoir si on peut changer.
Ça m'a rappelé...
Le problème des transitions, excusez-moi.
Oui, mais ça m'a rappelé cette phrase de Louis Gallois en 2004, illustre prédécesseur. On lui dit, mais on peut changer la SNCF. Il avait répondu, 8 ans à la tête de la SNCF, ça vous vaccine contre l'optimisme. La phrase est sublime, mais voilà, elle était chargée de sens quand même. Bon, chacun a donné son point de vue sur la SNCF. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?
Emploi et salaire, vous vouliez pas.
Oui, alors allons-y, tiens. Alors, cette histoire de partage entre le partage du profit, elle a été remise au cœur de l'actualité par le patron de Michelin et il avait fait une première déclaration un peu borderline dans Le Parisien en considérant que le SMIC n'était pas décent. Bon, qu'il fasse ce qu'il veut dans son entreprise. Okay. Dire publiquement dans un journal de grande lecture que le SMIC n'est pas décent. Et alors là, il nous explique dans les colonnes du JDD qu'il faut plafonner les salaires les plus élevés. Ça, vous avez vu
On avait fait le commentaire, effectivement, avec quelqu'un qui travaillait dans les services à la personne. Donc,
Guillaume Richard,
absolument. Wicker, qui disait que, effectivement, quand on dirige une entreprise industrielle avec quelques sites de production restant en France, on peut se permettre ce type de saillie. On a du mal à comprendre le plan de communication qu'il y a derrière, parce que, effectivement, deux fois en deux mois, c'est rarement le fruit du hasard. Donc, je pense qu'il y a quelque chose derrière. La posture de patron moral, elle est très facile à prendre, hein, surtout quand il y a eu la polémique sur le salaire de Tavares il y a quelques semaines ou jours. La question, c'est quel est l'intérêt de la tenir aujourd'hui ? C'est-à-dire que je doute encore une fois que ce soit vraiment simplement pour un amour du bien commun et de l'intérêt public. Je me pose la question motivation intrinsèque qu'il y a derrière, parce que encore une fois, il n'y a pas deux journaux qui vous appellent deux fois en un mois pour faire des trucs. C'est-à-dire que vous avez une agence de communication qui a appelé des journalistes, qui a préparé des interviews, vous avez mis des éléments de langage dans les interviews, vous saviez que ces éléments de langage allaient faire les unes de la presse. Donc, essayons de comprendre quel est l'intérêt caché derrière.
Le paternalisme du père Michelin d'avant, mais François Michelin, Christian Leboissieu.
Je rappelle que ce débat, il avait été ouvert au moment de la crise de 2007-2008, et c'était un débat plus précis sur la question du plafonnement de la rémunération des traders. Et même le G20 à l'époque avait essayé de faire un vague communiqué pour dire faut faire quelque chose, mais il est clair qu'il n'y a pas d'accord international sur ces sujets, et donc dans une économie ouverte, il peut y avoir un sujet. Deuxième remarque, je pense qu'on ne peut pas passer par des textes pour plafonner la rémunération des dirigeants.
Il n'appelle pas à une loi. Hein.
Non, mais...
Bien d'accord.
Veut dire, sur le principe, on peut constater que les inégalités se sont aggravées avec la mondialisation. C'est-à-dire, elles se sont réduites entre les pays et accrues dans chaque pays. À l'intérieur de chaque pays, il y a augmentation des inégalités. C'est documenté. Donc, si on veut traiter ce sujet-là, il y a plus... Je veux dire, pour moi... c'est plus par éventuellement la politique fiscale qu'il faut le traiter. Attends, je termine. C'est plus par la politique fiscale qu'il faut le traiter que par l'idée qu'on va fixer un plafond. Je crois pas à l'autorégulation des entreprises. J'aimerais bien l'autorégulation. Et ce que dit, au fond, le patron de Michelin, c'est que lui, il est prêt à jouer le jeu de l'autorégulation. Mais il est quand même relativement seul dans le paysage. Je rappelle d'ailleurs, pour revenir sur les salaires, que la situation de Michelin est quand même un peu particulière, parce que vous avez 3% des salariés qui sont au SMIC, chez Michelin. En France, en moyenne, c'est 10%. Donc, son exemple n'est pas généralisable.
C'est même 17 en moyenne, non ? Il y a 17 maintenant.
Ben, moi, j'avais le chiffre... Bon, en tout cas, beaucoup plus que les 3% de Michelin, c'est pas représentatif.
Oui.
Donc, difficile de généraliser. quelque chose qui n'est pas représentatif de l'ensemble des entreprises des secteurs. Et je répète, plutôt que cette idée d'un plafond, à quel chiffre plafonner, ça rejoint le débat sur ce que disait François Hollande quand il était président, définissant les riches à partir de 4 000 euros à l'époque, il me semble.
Voilà. 4 000 euros, il était riche, donc, et il avait ajouté, je ne pas les riches.
Donc, le débat pour moi sur la correction des inégalités de revenus et éventuellement de patrimoine en même temps, c'est la réponse, c'est la politique fiscale, ça n'est pas le plafonnement réglementaire, si je puis dire.
Il a eu la première phrase dans l'interview au JDD, c'est « Chez Michelin, on ne veut pas fabriquer de la valeur sur le dos des gens ». J'admets que ça, c'est bien préparé, cette affaire, quand même.
Ouais, ouais.
Votre avis là-dessus on marque une pause, Benjamin, parce qu'il y a 38 secondes, 37, là, 36. On marque une pause. Christian a raison, la question du partage de la valeur est derrière tout ça, et on ne va pas s'arrêter exclusivement sur les phrases de M. Florent Ménégo, qui explique dans le JDD que lui, il a un plafond. Bon, on fait ce qu'on veut chez Michelin. Hein. Le salaire décent chez Michelin, c'est 2 SMIC à Paris, par exemple, pour une famille de 4, 2 enfants, 2 adultes, avec un seul qui travaille. Votre réaction dans un instant, et puis à tout de suite.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.